Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Gouinement lundi, en direct, ou presque, sur Radio Campus Paris.
Ou presque, parce qu'en toute honnêteté, à cause des jours fériés de novembre, on enregistre l'émission pour une fois, mais dans les conditions du direct.
Et donc promis, d'ici la diffusion, on ne coupera rien de ce qui va se dire aujourd'hui, même si on va aborder un sujet qui pourrait nous faire dire des choses peut-être un peu trop intimes ou compromettantes. Et ça faisait longtemps qu'on voulait en parler, et on se lance enfin, on va parler des ex.
Et rien de ce que nous dirons dans cette émission ne pourra être retenu contre nous. On va en discuter ensemble avec Yuna, Isabelle, moi-même, Aura, et également notre invitée Gaëlle qui va nous apporter ses brillantes lumières.
Gaëlle, on peut te décrire comme une lesbienne sobre qui passe son temps à lire et à réfléchir aux soins et aux relations. Tu as écrit La Grève du Date, un zine coup de gueule sur la culture du dating dans les communautés queer. Et tu fais partie du collectif Tendresse Radicale. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Et entre deux papotages éclairés, on ira faire un tour du côté de la librairie parisienne Les Mots à la Bouche pour quelques recommandations littéraires.
Tout à fait. Et allez, le sujet est vaste, on n'a qu'une heure.
Whatever, that's impossible.
Okay. Melanie slept with Heather.
Okay.
Heather slept with Brooke.
Heather slept with Brooke?
Yes.
Brooke slept with Nina, and I slept with Nina. See that?
Wow, yeah. So, four. One, two, three.
That is how many people it takes to link you to me.
On vient d'entendre un célèbre extrait de la première saison de The L World, dans laquelle Alice commence sa fameuse chart, toile en français, pour savoir combien d'ex il y a entre Dana et elle. Sortir avec l'ex de l'ex, qui est l'ex de l'ex, un grand classique lesbien. Mais avant de commencer toute discussion, il faudrait qu'on se mette d'accord sur un point. Qu'est-ce que c'est qu'un une ex? Quels sont les critères? La durée de la relation? L'intensité des sentiments? La nature de la relation? Finalement, qui est-ce qui mérite d'être qualifié en ex et qui n'a pas obtenu ce statut? Est-ce que, par exemple, une ancienne maîtresse, amante, était un ex, une ex? Avez-vous des pistes de réflexion?
Gaëlle, est-ce que tu...
Alors, moi, je sais que ça m'a rendue mais vraiment folle une fois où on m'a dit « Non, en fait, c'était pas ton ex parce que vous étiez pas en couple. » Et moi, j'ai vraiment envie de dire « Et ex, qui je dis que mon ex ?» Parce que c'est vraiment horrible quand d'autres personnes essaient de définir ça pour toi. Notamment quand c'est une relation qui peut-être a été intense pour toi, mais pas intense pour l'autre personne. Moi, j'ai envie de dire « Si c'est une ex pour toi, un ex pour toi, c'est un ex et puis c'est tout. »
Donc finalement, pas de critères. Aura ?
Je suis totalement d'accord avec Gaëlle. C'est très personnel. Je pense qu'on ne peut pas définir exactement de manière scientifique ce qu'est un ex ou pas.
Yuna, tu as un avis sur la question ?
En commençant à réfléchir, je m'étais dit effectivement n'importe quelle personne qui a compté est une ex. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mes relations passées qui avaient pu compter, j'estimais pas forcément que tout le monde était une ex, mais parce que je me mettais pas... Enfin, le statut, je trouvais, était fort, quoi. Et donc, je pense que c'est pas vraiment une question d'intensité des émotions, finalement. C'est plutôt une question de statut social. Et si on n'était pas... S'il n'y avait pas un statut à l'époque de la relation, c'est difficile d'en mettre un après. D'où le grand problème des situationships, quoi.
Donc en fait, quelque part, tu considères qu'il faut être en couple pour qu'il y ait un moment où on ait pu dire « ça c'est ma copine, bonjour c'est ma copine » pour dire que c'est ton ex.
Bah, en tout cas, qu'il y ait eu des mots sur la relation. Je trouve que c'est très difficile de qualifier la relation post-relation si elle n'a pas été qualifiée pendant. Mais c'est personnel et c'est du coup c'est... Mais j'aimerais bien en soi qu'on puisse dire une ex facilement, mais je ne le fais pas personnellement.
Et en fait, quand on y réfléchit un peu aussi, c'est est-ce qu'on est OK avec le mot d'ex ? Parce qu'alors, on va revenir un petit peu sur l'étymologie, parce qu'on est des filles très intelligentes. Et ex, ça vient du latin. Et selon la définition du Larousse, c'est, je cite, un préfixe qui veut dire hors de et qui, placé devant un nom avec un trait d'union, sert à désigner une fonction, un état antérieur qui ont cessé d'être. Une ex-ministre, l'ex-mari de ma cousine. Et d'ailleurs, on appréciera l'exemple une ex-ministre. Hein, c'est du leur. Ils font des efforts quand même. Et donc, en matière d'amour romantique, quand on dit ex, on comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin de mettre un nom derrière et ça marque tout de suite un statut. Donc, finalement, est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Je veux dire, est-ce que c'est valorisant ou pas d'être juste une ex sans rien derrière ? Gaëlle, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, c'est vrai que ça peut être très valorisant dans les relations, mine de rien, parce que ça veut dire que la personne a été hyper importante pour nous. Et c'est vrai qu'en fait, quand on dit ex, on complète automatiquement dans notre tête. Et c'est pour ça qu'on va se dire, en fait, une ex, c'est forcément une ex copain-copine. Parce que c'est comme ça qu'on auto-complète. Mais en fait, ça peut être ex plan cul, ex situationship. Et c'est vraiment dur, bah, justement, quand on relationne en dehors des normes, de se dire, OK, c'est quoi une ex ? Mais c'est vrai que c'est très dur parce que moi, je sais que dans mes amis, je ne citerai personne, évidemment, mais on a vraiment ce concept de ex-ex. Genre, en fait, c'est quoi un ex qui est revenu dans notre vie romantique à un moment ? C'est quoi un ex qui est resté ami ? Moi, à chaque fois, il faut que je précise, en fait. Et c'est vrai que le mot ex, ben, ça renvoie à la fois au passé, à la fois à un passé qui peut être important, pas important. Et c'est juste que ce mot, c'est tellement un préfixe et on oublie que c'est un préfixe. Et en fait, on devrait compléter la phrase, quoi.
Ce serait hyper compliqué en même temps, comme tu disais. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on est hyper clair sur la situation. Justement, il y a un côté pratique, ce mot, quelque part.
C'est vrai, mais on peut dire bah, c'est une personne avec qui j'ai eu une relation. Et la relation peut être ambiguë et c'est pareil. Mais quand on dit relation, on auto-complète. On se dit « Ah, c'est une relation romantique ou sexo-affective. » Mais des fois, je trouve dire « Ah, j'ai une petite relation ou une relation de 3 semaines avec cette personne. » Ça simplifie un peu, quoi.
Et pour toi, du coup, c'est un petit peu plus valorisant, alors ? Enfin, je veux dire, ça te dérange d'être envisagée comme l'ex ?
Ah non !
The ex.
J'adorerais être the ex. J'espère que je suis l'ex unique pour certaines personnes. Enfin, en tout cas, l'ex dont on parle. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre mon ex. Des fois, quand en fait, on a tous des potes qui disent mon ex pour parler d'une personne en particulier. Mm-hmm. Et c'est la personne qui les a potentiellement le plus marqués. Moi, à chaque fois, je dis genre... ok, mon ex qui est mon meilleur pote. Enfin, je complète, quoi.
Oui, il y a une différence entre mon ex et une ex, ou un ex.
Ouais.
Et toi, Yuna, t'en penses quoi de cette histoire de mot ex ?
Bah, je trouve que c'est à la fois, ouais, on l'a un peu dit, donc valorisant, et en même temps, bah, on est un peu interchangeable, quoi. Si on est juste ex et qu'on dit pas tellement qui, quoi, mon ex Amélia ou mon ex Christine, bon, c'est un petit peu... Oui, on n'est plus rien dans le présent, on n'est qu'une partie du passé. C'est comme si on nous ôtait un peu notre identité d'individu et qu'on n'était plus qu'un souvenir, quoi. Donc c'est quand même un petit peu triste en même temps, je ne sais pas.
Oui, je suis d'accord, c'est très triste. Mmh. Ben maintenant qu'on a à peu près cerné le sujet, on peut passer aux choses sérieuses. Y a-t-il une particularité dans les relations entre ex dans la communauté queer lesbienne ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est...
Gaëlle ?
Il y a tellement de choses à dire. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que ce qui se passe au niveau des ex, c'est que dans la norme hétérosexuelle, on va dire, quand on a une ex, en fait, on peut ignorer cette personne après. Et en fait, je trouve que dans les communautés queer, c'est très rare qu'on n'ait pas des potes en commun, des relations professionnelles en commun, des soirées en commun, des espaces en commun. Et c'est un peu ce qui fait que tout est entremêlé, en fait. On ne peut pas dissocier le fait d'avoir une ex de la communauté et des espaces dans lesquels potentiellement on a grandi, où on se sent bien. Et ça peut être plus ou moins récent. Enfin, il y a des personnes qui vont justement découvrir le monde queer avec une nouvelle partenaire et ensuite se retrouver complètement coincée dans cet espace qui est entre guillemets acquis. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment cette interconnexion en fait de la communauté lesbienne qui fait la particularité des ex.
Ouais, parce qu'il y a un cliché, enfin, qui, moi, je trouve, se vérifie, en tout cas dans mon cas, mais pas vrai, d'effectivement, les ex qui deviennent très amis entre lesbiennes. Et est-ce que, donc, tu vois ça aussi, la raison pour laquelle ça se passe, c'est à cause de toutes ces interactions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dans le sens où on a un peu un côté plus famille dans cette communauté, où on a quand même un peu rejeté, on peut le dire, de temps en temps, par le monde extérieur. Et donc, on a envie de rester, malgré tout, après, ensemble, quoi, même si on n'est plus ensemble romantiquement.
Ouais, c'est clair que, en fait, pour moi, on est une bulle. Et on est une bulle pour des raisons légitimes. C'est parce qu'on n'est pas autant accepté à l'extérieur, etc. Et en fait, on se reconstruit notre famille, notre univers dans cette petite bulle de communauté. Et c'est très bien. Je pense qu'en effet, ça peut aider à faire que genre, les lesbiennes soient hyper potes avec leurs ex. Je pense qu'on peut aussi dire que peut-être les lesbiennes ont un peu plus d'éthique relationnelle que dans certaines relations hétéro, vont avoir une attention particulière portée à la justice dans leurs relations. Puis en fait aussi, tout est tellement imbriqué. Moi, j'ai plus d'exemples autour de moi de personnes qui veulent plus du tout avoir de contact, ne veulent plus se croiser. Et ça pose des problèmes pour tout un groupe d'amis, pour toute une communauté qui doit s'organiser autour de ça. Et du coup, franchement, c'est plus facile, enfin, je sais que c'est très difficile personnellement et relationnellement de rester, enfin, et de devenir ex, en fait, enfin, de devenir ex-ami et ami-ex, bref. Mais en même temps, c'est parfois une meilleure solution que cette histoire de cloisonnement des espaces qu'on peut avoir dans certaines ruptures qui se passent mal, quoi.
Et toi, Aura, qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'amitié entre ex ?
Mais non, mais moi, je suis très partagée parce que depuis le début de la préparation de cette émission, vous parlez du fait que chez les lesbiennes, ce serait plus courant de bien s'entendre avec ses ex, etc. Mais je trouve que y a aussi beaucoup de drama, quoi, autour de la rupture. Je vois ce penchant, en tout cas, à réfléchir là-dessus, ce qui déjà est un grand pas, parce qu'on est peut-être les seuls, du coup, à réfléchir là-dessus. Mais je trouve qu'en pratique, c'est quand même assez compliqué. Et en fait, ça peut aussi se retourner contre nous d'être une communauté et d'avoir les mêmes lieux, etc. Parce qu'on a aussi du mal à se couper, et peut-être à avoir ce temps aussi pour transformer la relation. Et puis, on peut aussi être mis à l'écart. Je trouve que c'est encore beaucoup fait. Donc, j'espère que cette émission va permettre la réflexion.
Bon, on reviendra tout à l'heure un peu plus précisément sur être amis ou pas.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce cliché-là, il est encore prégnant ou plus du tout dans la communauté lesbienne ?
Les ex-amis ?
Ouais.
Franchement, moi, j'ai très peu d'exemples très marquants. Enfin, j'en entends parler et presque j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est davantage un stéréotype que quelque chose autour de moi. Mais je pense que selon les groupes d'amis ou autres, il y a vraiment des expériences très différentes et c'est la mienne, donc je ne peux pas généraliser là-dessus.
Alors que moi, j'ai vraiment les exemples complètement inverses. Ouais. Un groupe d'amis où on est très amis entre ex. Mais bon, on en parlera peut-être tout à l'heure.
En parlant d'ex qui restent amis, on va écouter What I Want du trio pop américain Muna. Un groupe queer composé de deux ex, Naomi et Katie, qui ont réussi à surpasser leur rupture pour continuer à faire de la musique ensemble et nous sortir des gros tubes comme celui-ci. When I go out again, I'm gonna drink a lot. I'm gonna take a shot, cause that's just what I want. I'm gonna ask for one, 'cause that's just what I want.
Alors jusqu'ici, on est un peu resté dans la théorie. On va maintenant se plonger dans la pratique. Alors dans la pop culture, l'image de l'ex est souvent mauvaise. On la rejette, l'ex est toxique, on ne veut plus jamais en entendre parler. Et c'est le sujet de plein de chansons. Donc on est plutôt poussé à détester l'ex. Pourtant, on vient d'en parler. Les lesbiennes, enfin vous n'aviez pas l'air très d'accord, mais bon, les lesbiennes sont souvent amies avec leurs ex. Alors en vrai, quelles relations sont possibles avec les ex ? Est-ce qu'on devient amie ou pas ? Les pour, les contre, alors moi je peux dire, dans mon cas, j'ai un peu de tout, moi, sur l'échelle de j'ai l'ex qui ne veut plus jamais me voir et que je n'en verrai plus jamais, et j'ai l'ex qui est ma meilleure amie, ma sœur, famille, quoi, et que je vois tout le temps. Et ce serait un peu inimaginable qu'elle ne soit plus dans ma vie. Et au milieu, j'ai les ex que je vois de temps en temps, celles que j'ai complètement perdues de vue, mais sans animosité particulière. Moi, je sais que ça dépend aussi un peu de la relation, ça dépend des personnes, forcément, et de ce qu'on veut. Moi, j'aurais tendance à vouloir rester amie avec mes ex si ça s'est pas trop mal passé. Bon, mais évidemment, à mon avis, il faut un temps de rupture qui est indispensable Après, quand c'est des gens qui ont compté, moi, je sais pas à partir de moment où c'est des gens qui ont compté pour moi, qui connaissent des choses très intimes sur moi, et à la base avec qui je m'entendais quand même bien, enfin, ouais, bah j'ai quand même envie de les garder dans ma vie, donc je fais en sorte d'être amie avec elles. C'est pas forcément facile, mais je pense qu'on a une éthique relationnelle, comme tu disais, Gaëlle. J'ai beaucoup aimé cette expression. Et voilà, je pense que ça peut marcher. En même temps, ça peut évidemment dépendre de plein de choses. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, Gaëlle.
Je trouve que, évidemment, il n'y a pas de réponse unique sur ce sujet. Je pense qu'il faut prendre les relations avec les ex comme on prendrait n'importe quelle relation, de savoir un petit peu ce qu'elle t'apporte encore, genre les choses un peu uniques que tu trouves avec cette personne. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut une vraie rupture, que ce soit, on en parlait pendant la pause, mais juste des réseaux sociaux, de pouvoir ne plus voir les réseaux sociaux de la personne, pas forcément bloquer, il y a tout un tas d'autres méthodes, genre essayer de plus trop se croiser, genre juste pour prendre de l'air un petit peu. Et après, je pense que l'amitié est possible, mais moi, je sais que je m'étais rendu compte à un moment que les choses qui m'attiraient chez les personnes, c'était pas forcément ce qui m'attirait chez mes amis. Et du coup, que je me retrouvais avec, en fait, presque deux catégories de gens différents qui étaient genre les personnes avec qui j'avais envie de relationner, mais de manière parce que c'était des personnes tellement différentes de moi qu'elles m'apportaient genre une sorte de voyage, et les personnes qui sont plus similaires à moi, chez qui je voyais une amitié profonde, hein, une correspondance de valeurs. Et qu'en fait, du coup, des fois, rester amie avec mes ex, ben, ça avait plus de sens parce que ces personnes s'intégraient moins dans mon quotidien, s'intégraient moins dans les choses que j'avais envie de faire que d'autres amis. Et du coup, dans ce cas-là, ça peut ne pas être forcément genre soit de l'animosité en mode l'ex toxique qu'on veut plus voir, ou soit genre vraiment une amitié profonde qu'on a envie de maintenir. Ça peut aussi être genre, ok, on a partagé ce qu'on avait à partager, c'était trop bien et on s'est beaucoup apporté sur le coup. En fait, maintenant, nos vies, elles se correspondent plus trop et c'est pas grave, même en amitié, quoi.
Ah ouais, bien sûr, je pense qu'il n'y a de toute façon aucune obligation de rien. Mmh. Fait effectivement comme ça convient pour les deux. Oui. Aura, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je suis totalement pour rester amie le plus possible et continuer des liens et transformer les liens et ne pas être dans ce truc de où il y a une espèce de date de péremption de la relation qui débute et puis qui se termine. Pas être dans ce truc toujours répétitif dans les relations hétéro, enfin dans les relations qu'on a l'habitude de connaître depuis qu'on est enfant. Mais c'est difficile et oui, je pense qu'il faut du temps. Et je suis d'accord avec Gaëlle sur aussi ce truc de parfois on a envie de rester amis, mais en fait la relation ne nous apporte plus grand chose en dehors du cadre dans lequel elle était. Et en fait, on trouve plus trop de sens ou on s'y sent pas à l'aise. Et du coup, naturellement, on se sépare.
Yuna ?
Et toi ?
Ouais, moi ça m'a interrogé ce que tu as dit un peu sur la pop culture au début, parce que je trouve qu'il y a vraiment à nouveau un truc un peu binaire, quoi, qui m'interroge sur à la fois soit diaboliser son ex, ça dégage, c'est la poubelle, tu m'as apporté que du mal, soit idéaliser complètement, c'était la seule personne de ma vie et maintenant c'est fini, que faire, la vie est moche. Et je trouve qu'on a un peu du mal quand même à transformer la relation dans un truc chouette et peut-être pas binaire. Et l'amitié, ça peut être vraiment une façon intéressante de transformer la relation, mais comme vous l'avez déjà dit, il faut respecter le temps de deuil, sinon ça peut juste être un énorme déni. et ça fait du bien à personne. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réinventer avec les ex.
Moi, là-dessus, Yuna, j'ai vraiment ce truc que je raconte, que je dis à mes amis. C'est qu'en fait, je pense que ces stéréotypes qu'on a de l'ex toxique ou de l'ex meilleur ami idéalisé ou quoi que ce soit, en fait, après une rupture, on croit ce qu'on a besoin de croire. Et en fait, chaque personne va croire ce qu'elle a besoin de croire pour le temps, parce que en fait, c'est le mieux pour son développement à cette personne à ce moment-là, quoi. Et du coup, pour une personne, ça va être diaboliser l'autre personne, pas du tout voir ce qu'elle voulait apporter, les bonnes intentions, etc. Pour une autre personne, ça va être en mode « Ah, mais personne ne m'aimera plus jamais », etc. Mais en fait, on a besoin de ces phases, quoi. C'est des phases qu'on va vivre à chaque rupture. On va penser que c'était la parfaite personne pour nous, on va penser que c'était vraiment genre un démon qui est entré dans notre vie. Et du coup, c'est normal que ça fluctue là-dedans. Et je pense que c'est là que l'amitié vient en fait donner une nuance, parce que en fait, je pense qu'on réussit à être vraiment amis avec des gens où on voit leurs défauts, mais ça nous touche moins et on les aime aussi et on aime aussi toutes leurs qualités. Et du coup, pour arriver à ce moment-là, je pense qu'il faut aussi passer par ces phases un peu extrêmes sur lesquelles justement les films et les séries vont vraiment s'accrocher très dur pour nous vendre quelque chose, quoi, aussi.
Mais il faut que ça reste des phases.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Parce qu'ensuite, si t'es avec quelqu'un qui diabolise ou idéalise son ex, ça peut être quand même un petit peu gênant, quoi. D'ailleurs des petits signaux qui s'enclenchent.
Bah oui, d'ailleurs, bah, on peut, on voulait en parler un peu plus tard, mais on peut en parler tout de suite, effectivement. On pense que, est-ce que quand on est avec quelqu'un qui parle vraiment très mal de son ex, ou même avant d'être avec cette personne, enfin bon, est-ce que c'est pas quelque part un red flag? Qu'est-ce que ça dit de la personne? Alors, moi, perso, je pense que oui. J'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps d'une fille avec qui j'avais proposé un verre, etc. Il se trouve que j'avais vu son ex, enfin bon. Et après, elle m'est tombée dessus en mode, comment ça, tu as vu mon ex? Sachant qu'il serait pas entre moi et elle. Enfin bon, et m'a dit, oui, mon ex est néfaste, je ne veux plus en entendre parler, etc. Donc, j'avoue que ça ne m'a pas du tout... donner de bons signaux sur cette personne, et après ça s'est totalement vérifié d'ailleurs.
J'espère que cette personne n'entendra pas cette émission.
Donc voilà, donc moi je trouve que c'est très mauvais signe. Ces personnes, enfin là clairement elle n'avait pas fait son deuil encore. Il y a ça aussi, il faut peut-être attendre effectivement de voir combien de temps, si ça fait 10 ans, c'est un vrai problème.
je pense que je m'alarmerais quand même assez rapidement. Surtout si y a un pattern de « toutes mes ex sont des énormes merdes », là, vraiment, oui, ça sent très mauvais. Oui. Et surtout, ouais, une question un peu de vocabulaire. Si tu parles de ton ex en mode « elle était comme ça, il était comme ça », fondamentalement, et que tu parles jamais de dynamique, de relations, de choses comme ça, ça aussi, je pense que ça m'alarmerait. Et de la même façon, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui regarde son ex avec des étoiles dans les yeux, en mode le prime de ma vie est passé, en fait. J'ai rencontré l'amour de ma vie, ça n'a pas marché, mais maintenant on est ensemble, et voilà, pour un petit bout de chemin. Non, il y a vraiment rien qui fonctionne.
Gaëlle, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que c'est assez, assez compliqué, justement, parce que moi, rien que la notion de red flag, ça me fait réagir à chaque fois. Je me dis vraiment, c'est quoi un red flag? Est-ce qu'on réussit vraiment à séparer les comportements réellement, entre guillemets, toxiques? Ou est-ce qu'on est en train de tout mettre ensemble? Et du coup, ça me fait toujours un peu peur, mais pareil... En fait, si quelqu'un a une ex qui l'a agressée, est-ce qu'on doit forcément avoir l'histoire, avoir les détails pour pouvoir croire la personne, un peu quelle colère est légitime envers les ex, est-ce que tout n'est pas genre beaucoup plus complexe, etc. Enfin, c'est vraiment des questions que je pose dans l'air. Voilà. Mais je pense que ce que tu décris dans ta situation, c'est aussi quelqu'un qui est très virulent par rapport à quelqu'un, qui a genre un gros blocage. Et en fait, ça dit quelque chose plus large de sa personnalité, parfois, d'être en mode « Ah bah, cette personne m'a fait du mal une fois, je veux plus en entendre parler ». Enfin, moi, je pense que si j'étais dans cette situation, j'aurais été en mode « est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce qu'il y a un truc particulier ?» Mais en fait, si je vois que la personne est bloquée sur le dialogue, ben, c'est vrai que ça peut être compliqué de comprendre ou de faire sa part des choses par rapport à qu'est-ce qu'est une colère légitime ou potentiellement exagérée par rapport à une ex, quoi.
Ok, Aura ?
Oui, moi, j'attends quand même, quand je rencontre quelqu'un, de sentir une forme de disponibilité. Donc... j'ai pas de problème à parler d'ex, de passé, etc. Parce que ça fait partie de la rencontre et de la vie. Et on peut pas l'exclure, mais j'ai besoin déjà de sentir que la personne, si elle en parle, s'inclut, effectivement, se remet en question et que c'est pas que l'autre, etc. Mais juste pas 2 heures dessus, quoi. Voilà, là, c'est problématique quand même.
Ah bah oui, les dates, je trouve, où on parle de l'ex, enfin, c'est jamais un très bon sujet, je trouve.
Oui, mais bon, on va être ouvert d'esprit.
Est-ce que ça peut éventuellement poser des problèmes dans vos relations actuelles? Le fait, je ne sais pas du coup quel type de relation vous avez actuellement avec vos ex, mais est-ce que c'est un sujet? Est-ce que ce n'est pas un sujet du tout?
Gaëlle?
Je ne sais pas, moi je pense que dans ma vie, j'ai un rapport assez apaisé à mes ex, dans le sens où il faut juste pour moi que cette relation soit claire. Et du coup, j'essaie de... Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots, les descriptions et l'explicite. Et du coup, quand je réussis à avoir ça dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amicale, romantique ou quoi que ce soit, ça me fait du bien parce que j'arrive aussi à la communiquer aux autres. Donc, je peux être en mode, voilà, cette personne, c'est une ex avec qui, genre, c'est terminé depuis tant de temps. On n'a plus de ce type de relation, mais par contre, on est parfois amis. Enfin, voilà. Et ça... tant que je peux le communiquer aux autres, je pense que moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Et potentiellement, ça rend les autres à l'aise aussi. Et un truc qui, moi, peut me rendre mal à l'aise, c'est justement quand il y a une relation qui est un peu mal définie avec une ex. Et c'est en mode « Ah, mais on ne sait pas trop. » Et puis moi, si je demande genre, un peu d'explication là-dessus, on va me dire « Mais tu n'es pas dans la fluidité des relations et tout. » Enfin, bien sûr, c'est plus complexe. Et moi, j'adore la fluidité, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la fluidité, ça peut dire « Tu me donnes une description un jour et deux jours après, tu me donnes une autre description. » Mais ça ne veut pas dire « On est dans un flou artistique constamment. » Enfin, ça, je pense que ça peut marcher pour certaines personnes. Pour moi, je sais que ça m'insécurise de fou quand j'ai une relation avec quelqu'un où tout est très flou autour, quoi.
Et toi, Yona ?
Moi, par le passé, je sais que ça a pu insécuriser un peu des partenaires, que je puisse rester parfois amie avec des ex. Et je trouve que c'est pas très facile de gérer cette situation-là. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie de blesser les gens avec qui on est. Donc, c'est toujours un peu une question de balance, d'équilibre, de... effectivement, les relations sont fluides et changeantes, mais il y a des gens que ça met mal à l'aise et il y a des gens qui mettent leurs limites, en fait, et qu'on peut aussi respecter. Donc ça, c'est des discussions internes au couple qui sont importantes, je pense. Si couple, il y a.
Toi, Isa.
Oui, non, bah, moi, c'est très important. Comme je l'ai dit, moi, j'ai une ex qui est une personne extrêmement importante dans ma vie. Donc, si la personne... Enfin, si ça se passe mal entre elles, c'est jamais arrivé hein, pour le moment, mais ça me perturberait beaucoup. Si elles s'entendaient vraiment pas, après, je serais assez étonnée, d'ailleurs. Mais enfin, bon, non, bah, ça pourrait très bien arriver. Non, mais jusqu'ici, ça s'est pas passé. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment besoin qu'elles s'entendent bien, parce que ça sera vraiment un souci, étant donné que je vois beaucoup cette ex. Mais d'ailleurs, je dis là que c'est une ex, mais dans ma tête, c'est plus une ex, en fait. Hein. C'est vraiment ma meilleure amie. Ça, j'ai l'impression d'être en CM2 quand je dis ça. Mais voilà, non, mais c'est comme toujours le souci de quand on a une amie, une copine qui n'est pas amie avec ses amis. De toute façon, généralement, c'est un petit peu problématique, quoi. C'est jamais très agréable.
Ce serait possible pour toi d'être en relation avec quelqu'un qui met vraiment des limites claires et qui soit en mode, en fait, non, j'ai pas envie que tu partes en week-end avec ton ex ou que machin.
Ah non.
C'est pas possible.
Non. Ah non, non, c'est qu'il y aurait vraiment un souci. Non, il n'est pas question que qui que ce soit me dise comment agir avec mes amis. C'est qu'il y aurait vraiment un problème. Non, ça, je n'accepterai pas ça du tout.
Mais pour moi non plus, c'est pas possible.
Oui, puisqu'en fait, l'endroit des ex, enfin l'imaginaire des ex, c'est un endroit où il va y avoir beaucoup, beaucoup de projections. Et je veux dire, si la limite de la personne, c'est, je ne sais pas, j'aimerais bien que tu n'aies pas d'interaction physique, affective avec ton ex, enfin genre que vous vous embrassiez pas, que vous couchiez pas ensemble, c'est en mode, ok, je respecte ses limites, il n'y a pas de souci. Si on est d'accord dessus, très bien. Mais par contre, bah justement, t'empêcher de faire quoi que ce soit avec ton ex que tu pourrais faire avec une autre amie, bah en fait, c'est des choses sur lesquelles... Ça veut dire que tu peux pas traiter tous tes amis de la même manière et c'est quand même très restreignant, quoi. Et on rentre dans des choses où, bah oui, tu peux demander des limites à l'autre par rapport à tes projections, mais tu as aussi une responsabilité qui est de bosser sur ta vision des choses aussi, quoi.
Mais c'est intéressant parce que là, du coup, c'est un petit peu plus le sujet de l'exclusivité. Du coup, il y a des choses qu'on trouve acceptables dans l'exclusivité, donc dire « Ok, je vais pas coucher avec telle personne ». Et d'autres choses qui nous paraissent absolument pas acceptables. Je trouve que c'est... Peut-être on divague un peu, mais c'est intéressant aussi.
J'ai pensé quand on se disait c'est quoi une ex, etc. Et quelque chose que j'ai trouvé très, très dur toute ma vie, c'est qu'en fait, quand on a une relation, notamment hyper fréquente, régulière, avec quelqu'un qui est romantique, et qu'en fait, du jour au lendemain, on décide qu'on veut plus être ensemble, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on arrête de coucher ensemble, de s'embrasser, mais on oublie aussi toute la partie amicale. Et en fait, du jour au lendemain, on perd un ami, quoi. On perd un meilleur ami. Et pour moi, c'est un truc qui est genre hyper, hyper déchirant et qui rend des choses absurdes, quoi. Moi, je me suis posé la question des fois, mais est-ce que je devrais pas, genre, juste embrasser mes ex des fois quand on se voit? Parce que pourquoi pas, en fait. Mais en fait, on se dit, mais non, c'est une pente glissante et tout. Puis après, tu te dis, mais non, faut que je déconstruise les relations, en fait. Un bisou, c'est rien. Puis si on couche ensemble, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on re-rentre dedans. Mais en même temps, c'est hyper dur de pas re-rentrer dans des dynamiques. Et je pense que même si ces distinctions, genre embrasser, être juste pote, entre guillemets, bon, ça dit beaucoup de la vision de l'amitié de dire être juste pote, mais voilà. Même si ces distinctions, elles sont absurdes, je pense qu'elles le sont parfois, je pense qu'elles nous font du bien parce qu'elles nous permettent aussi de se dire on est un peu contenu, potentiellement la passion et le désir ne vont pas se déchaîner sur nous. Voilà.
Vraiment le cadre relationnel, quoi, qui est rassurant.
Mais moi, comme juste après, on passe à autre chose, mais quand même comme réussite, je tiens à le dire. J'ai une ex de très longue date, quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans, de Bruxelles, et on était ensemble, et enfin voilà, vaguement. Et maintenant, en fait, elle revient souvent sur Paris, et à chaque fois qu'on se voit, on a vraiment une tendresse. Mais c'est tellement une relation forte et longue qu'il peut se passer plein de trucs. On reste amis et en fait, elle retourne à Bruxelles, elle retourne faire sa vie. Et puis, enfin voilà, mais il y a cette tendresse qui reste et qui n'est pas forcément corporelle. Bref, mais voilà, elle est là.
Et ça toujours existe. Un lien en particulier.
Et quand il y a eu de la jalousie de mes partenaires... En fait, ils ont très vite compris qu'il n'y avait pas du tout de risque de quoi que ce soit, parce que c'est très, très cadré et c'est très, très, très fluide, quoi.
Très bien.
C'est beau.
Eh bien, avant de reprendre la discussion sur les ex, on part faire notre petit tour habituel dans une librairie. Et cette fois, c'est moi qui me suis collée et je me suis arrêtée au Mot à la Bouche à Paris pour recueillir les bons conseils d'Eva. Je suis devant les Mots à la Bouche. Les Mots à la Bouche, c'est une librairie spécialisée sur les thèmes LGBT. Elle existe depuis 1980. Alors d'abord, elle était dans le Marais, à Paris, et puis maintenant, elle est ici, dans le 11e arrondissement. Et je vais y retrouver Eva. Bonjour Eva, ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Ça va bien. Alors, je ne sais plus du tout quoi lire.
Bah ça tombe bien, t'as bien fait de venir, on a plein de bonnes choses ces derniers temps, et puis il y a aussi des livres de fond qu'on a lus et qu'on a adorés. Le premier dont je vais te parler, qui est un petit coup de cœur qui nous arrive direct des années 90, c'est Valencia de Michel T, qui est paru chez Hystérique et Associés. C'est un roman qui se passe dans la scène queer et punk des années 90 de San Francisco, où on va suivre Michel, donc l'alter ego de l'autrice, qui va de scène ouverte de poésie en scène ouverte de poésie et de fille en fille, en essayant d'arrêter le café, d'écrire des poèmes et de vivre sa vie, tout en aussi essayant de gagner sa vie, ce qui n'est pas simple. C'est très fun à lire, c'est très drôle, il se passe plein de trucs. Et c'est parfait si on aime, par exemple, Superstar d'Anne Scott ou les livres de Dorothy Allison.
Ok, ça a l'air chouette. Et quoi d'autre ?
Quoi d'autre ? Bah, dans un truc un peu moins récent, mais dont j'ai envie de te parler, notamment parce qu'on a la joie de recevoir l'autrice en novembre, il y a L'amour de nous-mêmes de Erika Nomeni qui est paru chez Hors d'atteinte. C'est un roman épistolaire lesbien qui parle de marginalité queer, puisque le personnage principal va écrire des lettres à une personne dont on ne lira pas les réponses pour lui raconter cette situation de femme queer, noire et grosse, qui fait de la musique, qui cherche l'amour. C'est hyper chouette, c'est hyper beau, c'est très émouvant, c'est très intelligent, et la fin est extrêmement satisfaisante. C'est un livre que je recommande grandement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend au fur et à mesure des lettres les réponses qui lui ont été données, puisqu'elle répond à son interlocutrice. C'est un très beau livre et on aura le plaisir d'en parler avec Erika Nomeni fin novembre, au Mot à la Bouche, en compagnie de Paolo Higgins, qui vient également de sortir un livre chez Hors d'atteinte. Après, est-ce que tu aimes les mangas ?
Ouais, j'aime bien, ouais.
Alors, je vais te montrer un truc très cool. Ça s'appelle L'amour au menu, il y a deux tomes parus pour l'instant, et c'est une romance entre deux femmes qui vont se rencontrer parce que soit elles cuisinent, soit elles ont faim. L'une commence par faire des petits plats pour son compte Insta et elle fait trop à manger. Et elle va oser aller toquer à la porte de sa voisine pour lui dire « J'ai trop fait à manger, est-ce que t'en veux ?» Et sa voisine lui dit « Oui, avec plaisir. » Et à partir de là, elles vont nouer une relation autour de la nourriture qui va permettre aux personnes qui ont écrit le manga, la mangaka, de nous parler aussi de différences d'habitude, mais aussi de corps dans la société japonaise, puisqu'une des deux protagonistes est une femme assez massive à qui on propose toujours des portions pour femmes, et elle a toujours la dalle. Et aussi, elle a du mal à se vêtir. Enfin, il y a tout un truc intéressant là-dessus. Voilà, et c'est une très jolie relation, ça donne assez faim. Et c'est très mignon.
Bah, ça a l'air super, tout ça. Merci beaucoup.
De rien, avec plaisir.
À bientôt.
À la prochaine.
Et la rencontre avec Paolo Higgins et Erika Nomeni, dont parle Eva, aura lieu le 28 novembre au Mot à la Bouche. Et bien sûr, on mettra toutes les références des livres mentionnés dans le reportage sur notre site.
Et en parlant d'actualité culturelle, les cinéphiles à Paris sont gâtés, avec tout d'abord du 31 octobre au 3 novembre, Cinéfable, le festival du film lesbien et féministe de Paris. Et peu de temps après, d'ailleurs, il y aura encore plein de films à voir lors de la 30e édition du festival Chéri Chéri, le festival international du film LGBTQIA+, qui se tiendra du 15 au 26 novembre à Paris.
Sortez les mouchoirs! Il est temps d'écouter le très beau Lilo de The Japanese House, un morceau qui parle de la rupture de l'artiste britannique avec son ex-amoureuse Marika Ackman. Et comme ici on est fan des ex qui restent amis, Marika apparaît dans le clip de cette chanson où l'on peut voir les deux musiciennes s'enlacer et se faire leurs adieux. I needed someone to depend upon. I was alone, I was emotional. Searching for the right emoticon to expand my mental lexicon. And Gemma told me that she met someone. It was the person I've been counting on. It felt good, it felt transitional.
Et on arrive à notre troisième partie. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la représentation des ex dans la culture n'est pas souvent flatteuse. Et du coup, je voudrais vous demander, vous, y a-t-il eu des relations d'ex-lesbiennes, des ruptures dans les films, les livres ou autres objets culturels qui vous ont marqué et pourquoi ? Gaëlle ?
Alors, moi, j'avais choisi de parler de T-Transition Baby, qui est un roman qui a été écrit notamment sur une personne qui a détransitionné après avoir été une femme trans pendant plusieurs années, enfin s'être présentée comme une femme trans en tout cas. Et du coup, c'est son ex qui était aussi une femme trans avec qui il a toujours une relation, enfin on va dire qu'elles sont toujours un petit peu amies. Et en fait, sans trop vous expliquer, mais il y a une grossesse qui vient poser un petit peu la question de la parentalité et de comment les ex nous voient. Et du coup, je vais vous lire un petit extrait. Alors, il y a des jours où je t'aime encore et d'autres pas. Mais les jours où je ne t'aime pas, en fait, je dois vraiment le vouloir pour que ça arrive. Les jours où je t'aime ne me demandent pas d'effort. Pendant tellement longtemps, tu as été la personne la plus importante de ma vie. Et puis, tout est parti en couille et on a juste disparu de la vie de l'autre. Quand je m'imagine élever un enfant avec toi, je le ressens comme une rédemption. C'est romantique, mais je m'en fous. Qui dit qu'on serait pas capable d'être là l'un pour l'autre ? Tout s'est si mal terminé que j'hésite même à y penser. Mais si on n'était pas faite pour être amoureuse, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas faite pour être une famille. Chaque fois que je me rappelle comment c'est entre nous maintenant, ça me donne envie de pleurer. Je pensais que ça se calmerait, mais non, ça a juste changé. Si on ne se laisse pas une autre chance, ce sera comme notre couple. Non seulement ça s'est fini, mais on dirait que ça ne s'est jamais passé.
Et alors, pourquoi cet extrait-là ? Qu'est-ce que ça t'évoque ?
En fait, je trouve qu'il y a tout dans cet extrait-là. Il y a le côté, ok, on a eu une relation romantique. Ensuite, on a disparu de la vie l'un de l'autre. Genre, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? Est-ce qu'on n'a pas réussi à construire quelque chose ensemble, quand même, qui reste, dont il y a encore des vestiges ? Est-ce que c'est forcément des ruines ou est-ce que, en fait, c'est des fondations sur lesquelles on peut construire quelque chose de solide, comme une amitié intense, comme de la parentalité ? Et vraiment, cette dernière phrase de « non seulement ça s'est fini, mais on dirait que ça ne s'est jamais passé », je trouve que ça représente très fort... Ce qu'on peut ressentir avec des ex, quoi. Moi, je sais que le sentiment qui me fait le plus peur, c'est le sentiment où tu t'as oublié comment tu te sentais, en fait, avec cette personne. Tu la regardes et, en fait, quand t'es plus amie, notamment, genre, tu vois un étranger, une étrangère, quoi. Et tu te dis, mais je comprends pas. À un moment, genre, on se regardait droit dans les yeux, on se disait qu'on s'aimait. Et là, cette personne... elle me fait plus rien, ça réveille plus rien en moi. Et je trouve que c'est... En fait, ça me marque énormément parce que récemment, j'ai eu une rupture amicale et on s'est un petit peu retrouvés récemment et elle m'a dit un truc qui m'a énormément marquée. Elle m'a dit que, en fait, toute sa vie, elle avait cru que quand elle avait aimé, ça avait toujours été faux. Parce que justement, en fait, elle a aimé, puis ça s'est terminé. Et en fait, le fait que ça se termine, le fait qu'on le ressente plus dans notre corps... c'est comme si ça invalidait en fait tout ce qu'on avait ressenti à ce moment-là. Et elle m'a dit, et je me suis rendu compte que toi, je t'aimais vraiment, parce que même quand on n'était plus ensemble, en fait, bah, je t'aimais encore. Et c'est absolument magnifique. Mais comme quoi, il y a des histoires d'ex et de ruptures amicales qui sont très, très, très belles aussi. Mais ça m'a vachement marquée, parce que moi, par exemple, les histoires d'amour que j'ai eues avant de me considérer comme lesbienne, avant de m'assumer comme lesbienne, entre guillemets, ben, je considère quand même que c'est des gens que j'ai aimés, peut-être un peu différemment des personnes que j'aime aujourd'hui, mais je voudrais jamais que les mecs cis que j'ai aimés dans mon passé, genre, aient l'impression que je les ai pas aimés avant. Parce que c'est pas vrai, parce que c'était un amour qui était juste un peu différent, mais qui était quand même très très intense. Et moi, j'imagine toujours ce que ce serait de rencontrer la personne que j'étais à ce moment-là et de lui expliquer, bon bah... ma poteau, genre en fait, t'es lesbienne et tout. Bon, tu le découvriras plus tard, mais voilà. Et je pense qu'il y aurait une forme de protestation de mon moi du passé qui n'invalide rien, qui serait vraiment en mode, mais j'aime vraiment cette personne, genre c'est quelqu'un d'hyper important pour moi et tout. Je dirais, mais ouais, et c'est le cas. Et c'est pas parce que t'arrêteras de ressentir ça, peut-être, parce que tu changeras de monde, etc., que ce sentiment, il va partir. Et c'est pas parce que tu le ressens plus maintenant que ça n'a pas existé, quoi. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est dur à ressentir, quoi. Parce que c'est à la fois quelque chose qui relève de la mémoire, de l'intellectualisation de nos relations, mais aussi quelque chose qu'on a perdu dans notre corps.
Je trouve ça très joli ce que tu dis. Et y a une chanson qui parle vraiment très précisément de ce sentiment d'étrangeté-là, de ce vide un peu qu'on peut ressentir en regardant quelqu'un. C'est Strange de Céleste. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est pour vraiment pleurer dans les chaumières. Et je suis étonnée aussi qu'on n'ait pas abordé plus précisément la question des ruptures amicales, parce qu'en fait, c'est aussi central et qu'on aurait pu, je ne sais pas, ça aurait pu venir un peu naturellement en parlant de ce que c'est qu'une ex. Parce qu'évidemment, que je pense que dans la queerness, il y a un peu une révolution. Enfin, il y a quelque chose de... Tous les types de relations sont beaucoup plus changeantes et fluides. Et la place de l'amitié, elle est différente, évidemment, que dans le système hétéronormé.
Donc, c'est ce que me disais aussi, pardon, qu'on aurait pu faire une émission sur la rupture amicale. Enfin, en parler, en tout cas, je trouve qu'on parle très peu de la rupture amicale. Mmh. Et comme si l'amitié, c'était ouf, hein, alors que c'est extrêmement douloureux. Mmh. Je sais, oui, si pour en avoir vécu quelques-unes, je trouve que c'est... Enfin, aussi douloureux, voire plus, enfin, je sais pas, qu'une rupture... romantique.
Mais ouais. On a totalement tendance à mettre de côté l'amitié, et de toute façon aussi en cloisonnant amour / amitié, déjà comme si on n'aimait pas ses amis. Moi personnellement, je peux vraiment aimer mes amis, je peux aussi avoir du désir pour mes amis, enfin, sans que la relation se transforme en autre chose, ça peut rester de l'amitié, mais je veux dire, tout ça, ça bouge, quoi.
Ouais, je trouve qu'il y a même un truc qui est presque pire dans les relations amicales, c'est que parfois les relations romantiques, elles se terminent parce que, en tout cas dans le cadre de la monogamie, genre parce qu'on n'est plus attiré, qu'on n'a plus le sentiment romantique ou quoi que ce soit. Et ça, ça peut être une excuse en fait, juste pour dire, ben voilà, on ne veut plus la même chose exactement. Et même si dans les amitiés, c'est possible de ne pas vouloir la même chose, de ne pas avoir les mêmes attentes et tout, il y a aussi ce truc, genre c'est quelqu'un qui veut plus traîner avec nous, quoi. Mmh. Et que c'est un peu assumé comme ça. Et c'est vrai que c'est très dur. Et même pour des choses un peu plus légères, même avec des amitiés plus légères, on a du mal à dire, même de l'autre côté. En fait, je pense qu'on n'a plus trop de points en commun aujourd'hui, tu vois, et c'est pas grave. Mais on a du mal à le dire sans que ce soit une déchirure, parce que le rejet amical, on a l'impression que c'est vraiment un rejet de qui on est quand on n'essaie même pas de plaire, quoi.
Oui. Ouais, tout à fait. Bon, on va revenir à notre sujet des ex. Yuna, toi, c'était quoi ton... Qu'est-ce que tu voulais nous faire écouter, pardon.
Ouais, moi, du coup, j'ai choisi un extrait d'une série. C'est du coup la troisième saison de Master of None. Et donc, la saison s'appelle Moments in Love. Les saisons sont très indépendantes les unes des autres. Et donc, elle est importante cette saison, notamment parce que c'est de la représentation de lesbiennes racisées, ce qui est suffisamment rare pour être mentionné. En plus, elles sont trop badass, elles sont trop stylées, elles se moquent des blancs tout le temps, elles ont une maison incroyable. Elles sont trop mignonnes ensemble. Et il y a cette très très belle scène à la fin, donc énorme spoiler. Si vous voulez la regarder et que vous n'avez pas envie de connaître tout le plot, peut-être qu'il faut passer un petit peu. Mais du coup, je veux bien qu'on écoute.
You are not the problem. Relationships are messy. You just gotta keep searching till you find that person that's willing to put up with your mess.
Mm-hmm. How's your mess?
Erica's fine. Mm-hmm. She's... She's...
Boring.
No, she's not boring. She's just not you.
Et du coup, cette scène, donc c'est ces deux ex-là qui sont dans une baignoire toutes les deux. Donc voilà, déjà pour commencer. Elles ont un peu refait leur vie et en fait, elles se revoient en cachette comme des amantes. Et là, elles parlent de leur relation à chacune. Elles sont toutes les deux remariées. Et elles sont en plus dans l'ancienne maison dans laquelle elles ont été mariées et elles ont cohabité ensemble. Et donc, évidemment, c'est très chargé émotionnellement. En plus, c'est très beau, le décor et tout. C'est fantastique. Et je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes dans cet extrait et dans cette relation. Il y a évidemment la question du deuil de la relation, qui n'a absolument pas été fait, puisque du coup, elle se revoit en cachette. Elle parle aussi... Il y a aussi, évidemment, la question de la monogamie. Toutes les deux, elles le décrivent comme un truc... Et la relation de couple, comme un truc finalement très chiant. Elles parlent plutôt mal de leur partenaire actuel et elles s'idéalisent entre elles.
Tout va bien.
Non, c'est très, très particulier. Ouais, donc par exemple, donc c'était en anglais, mais elle lui demandait « Alors toi, ta meuf actuelle, elle est comment et tout ?» Et elle répond « Elle est ennuyante, non ?» Elle dit « Non, pas ennuyante, mais bon, elle n'est pas comme toi, quoi. » Et en fait, elles sont vraiment dans ce truc-là, cette espèce de jeu... un peu particulier, pas très sain.
On rappelle qu'à ce moment-là, ce dialogue se fait dans une baignoire où elles sont nues toutes les deux face à face.
Voilà,
juste pour contextualiser un petit peu.
Ouais, carrément. Et j'ai trouvé que c'était... Bon, il y avait une vision donc très pessimiste du couple. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que je l'ai vue avec ma meuf et qu'elle était vraiment scandalisée par toute la scène et tout le fait qu'elle se revoit alors qu'elle... Voilà, en fait, l'adultère, quoi. Et moi, j'avais un petit peu plus d'empathie pour elle. Ça a créé pas du tout les mêmes choses chez nous. Et c'était intéressant de voir ce que ça venait un peu titiller et de cette réaction d'ex très étrange. Voilà. C'est pour mon extrait à moi. Et je sais pas si toi, Isabelle, t'as envie de nous partager quelque chose.
Moi, je vais vous faire écouter le début d'une chanson.
Moi, je vous... Simplement ton âme, toi, tu voulais qu'on partage nos charmes. Je pensais, c'est vrai, qu'avec les femmes, je ne pourrais pas embrasser de flamme. Avec toi, pourtant, j'ai vécu un amour enivrant. Et j'ai plongé brûlant mes doigts dans l'océan.
En fait, c'est un extrait de Magicienne, c'est une chanson de Clara Isée. Et en fait, dans cette chanson, elle raconte l'histoire d'amour qu'elle a eue avec une femme. C'est autobiographique, hein, elles ont vécu ensemble et tout. Et je trouve que c'est une super belle chanson, émouvante et tout, qu'elle a écrite donc après leur histoire, sur un amour inattendu pour elle en tout cas, intense, et qui a été vécu, qui s'est terminé, en tout cas romantiquement parlant, parce que quand on entend les paroles, très clairement, elles ont réussi leur transformation relationnelle, très bonne éthique relationnelle, parce que elle écrit vraiment, la relation est terminée, ça, il n'y a aucun doute, mais elle écrit à quel point c'était beau, que ça a touché, etc. Et en fait, moi, je rêve complètement qu'une ex m'écrive une chanson comme ça, hein, parce que c'est super beau. Non, mais c'est vraiment un magnifique cadeau et un super bel hommage à leur histoire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour conclure.
Oui, et donc pour conclure, on pourrait se poser la question, finalement, de la relation idéale avec une ex pour vous. Qu'est-ce que ce serait ? Même si, évidemment, on a dit qu'il n'y avait pas de... modèle typique et tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient ?
Gaëlle.
Parle de ça.
Oui, c'est à toi. J'ai l'impression d'être le joker. Bon, moi, je pense que ce sera toujours une forme de vraie rupture au début. Et puis après, c'est vrai qu'une amitié, c'est quand même idéal. Je pense parce que c'est quelqu'un qui nous a vraiment connus. Mais je pense que pour toujours chercher la petite bête, je pense qu'il n'y a pas de relation idéale. Parce que si on a un idéal, c'est aussi qu'on va s'y accrocher avec chaque ex et qu'en fait, on va peut-être... essayer de poser un modèle relationnel sur une relation qui est très différente à une autre et qui est peut-être plus trop appropriée pour nous à un moment T, quoi. Mais c'est vrai que l'idéal, ça reste l'amitié, la douceur.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ces très sages paroles, Aura ?
Moi, j'ai envie de dire même l'amour, en fait. Je pense qu'on peut arrêter... Déjà, en fait, l'amour peut être cyclique. Et puis, c'est pas qu'on désaime, mais c'est qu'on aime autrement ou qu'on revient à un amour où il y a du corps, où il n'y a plus de corps, etc. Parce que c'est aussi ça le sujet, c'est est-ce qu'il y a du corps, pas de corps. Mais en fait, je pense qu'on peut continuer vraiment d'avoir une relation avec ses ex, mais qu'il faut déconstruire un peu ce truc-là. J'aime pas trop le mot déconstruire, mais qu'il faut avoir de l'imagination et qu'il faut laisser toujours une porte ouverte et se dire qu'on pourra se rencontrer à d'autres moments. Et bon, ça, c'est dans le cas où ça s'est pas trop mal passé et que... Il y a une entente quelque part, quoi. Et toi, Yona ?
Non, je suis très d'accord avec vous. Je ne sais pas si j'ai des choses à rajouter. Je trouve que l'idée de s'adapter est bien et qu'effectivement, l'idéal, ça peut être le grand risque de vouloir adapter quelque chose à quelque chose qui n'est pas en fait possible. Et je pense que, je ne sais pas, je crois que dans les représentations que j'aime bien, il y a le fait de pouvoir peut-être rire ensemble des années après, avec le recul et tout ça, une espèce de jolie image de les choses ont évolué.
Oh, c'était mon ex. On était ensemble.
Enfin voilà, qu'il peut y avoir un truc léger, ça doux et chouette.
Oui, mais oui. Ouais. Ok, donc là on arrive à la fin de l'émission. Moi je voulais juste des petits. Il y a plein de ressources sur le sujet. Moi je voulais juste vous conseiller, si vous écoutez l'émission, c'est peut-être que vous aimez écouter la radio et ou des podcasts. Et je vous conseille d'écouter sur le sujet un très bon podcast qui s'appelle Le Royaume des Ex, un podcast de la RTS, donc c'est la radio suisse, par Christine Gonzalez et Aurélie Cuta. Elles ont déjà fait voyage en Afghanistan, le Vieillistan, et là c'est leur troisième saison, on va dire. Et c'est 10 petits épisodes qui sont très intéressants. Elles font notamment une espèce de podcast réalité où elles font se rencontrer des ex dans une pièce qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps. Et elles leur suggèrent des questions et les ex se parlent. Voilà, non, c'est vraiment pas mal du tout.
Gouinement lundi, c'est fini pour ce soir, mais on aurait pu faire au moins 2 émissions sur le sujet, voire plus, à vous de nous le dire. On espère avoir commencé en tout cas quelques pistes de réflexion et peut-être vous avoir apporté quelques réponses.
Si votre petit cœur sort tout juste d'une relation, si vous êtes en train d'en finir une... Sachez qu'il existe des thérapies pensées expressément pour les ruptures, en mode thérapie de couple mais avec votre ex, et qu'elles peuvent permettre de mieux rompre pour mieux s'aimer différemment après. La littérature lesbienne et les films regorgent de parcours qui pourraient résonner avec vos histoires. Enfin bref, restez entourés d'amis, de thérapeutes ou d'œuvres d'art.
Merci beaucoup Gaëlle d'avoir participé à la conversation. Donc on peut te suivre sur ton compte Instagram Imaginisme.
Merci.
Merci aussi à toute l'équipe de Gouinement Lundi, Inès, Nola, Gaëlle, Juliette, Serena, Joséphine, Éline, et bien sûr un grand merci à Sophie, à la technique. Et merci Yona, Isabelle.
Et merci Aura. Et vous pouvez retrouver l'émission sur notre site gouinementlundi.fr, sur celui de Radio Campus Paris et sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous montrer votre amour en nous mettant plein d'étoiles et de likes.
On se retrouve le 16 décembre et d'ici là, portez-vous gouinement bien.
Mais ne partez pas, car on se quitte sur une musique de Yona, une reprise de Strange de Céleste. C'est une musique qui parle évidemment d'ex.
I tried for you, tried to see through all the smoke and dirt. It wouldn't move. What could I? touch your head, to pull your thoughts into my hand, but now I can't say isn't it strange, isn't it strange.
Strangers again.